Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On parle, et c'est important, de la guerre d'Algérie dans l'humanité ce matin et de ce qui fut peut-être un crime perpétré par des soldats français.
C'est l'affaire Maurice Audin, du nom d'un jeune mathématicien de l'université d'Alger, militant communiste et partisan de l'indépendance algérienne. Il fut enlevé en juin 1957 par des soldats français et son corps n'a jamais été retrouvé et sa famille pense et dit qu'il est mort sous la torture. Eh bien, l'humanité publie ce matin le témoignage d'un homme âgé de 82 ans. Le journal l'appelle Jacques Jubier. Il était soldat en Algérie et il pense avoir enterré le corps supplicié de Maurice Audin un jour d'août 1957 dans un trou de 4 mètres de profondeur creusé par des civils algériens auxquels on avait bandé les yeux. Deux corps noircis en fait, et le vieux monsieur se souvient de ce que lui disait ce lieutenant de parachutistes qu'il avait réquisitionné. On les a passés à la lampe à souder, on a insisté sur les mains et les pieds pour éviter qu'on puisse les identifier. C'est un frère de Ben Bella, le leader algérien de l'époque, et une saloperie de communiste, il faut les faire disparaître. Jubier a gardé le silence 60 ans et puis il est venu voir l'humanité pour parler enfin et pour des raisons curieuses. Maurice Audin, dont la jeune silhouette dessinée sur un mur d'Alger fait la une de l'humanité, est un fantôme qui hante un député dont on a beaucoup parlé cette semaine, Cédric Villani, le mathématicien macroniste qui est lié par les réseaux de Matheux à la famille Audin et qui se bat avec elle. En janvier dernier, Villani avait donné une interview à l'Humanité. Il avait dit que Emmanuel Macron avait lui aussi l'intime conviction que effectivement Audin avait été assassiné par l'armée française. Et c'est en lisant cela que le vieux monsieur s'est décidé à parler. Il raconte aussi sa terreur de petit appelé à Fondouk, près d'Alger, dans un camp militaire, où les appelés trompaient l'ennui à la bière et certains devenaient des sauvages. Je nous épargne ici ce matin, Nicolas, les descriptions d'horreur que l'on peut lire dans l'Humanité. Elles ont hanté pendant 60 ans un homme et elles nous hantent désormais avec la douce figure d'un mathématicien mort à 25 ans.
Il y a de la violence aussi et encore à la une du Figaro.
Et là, de la violence quotidienne, et on peut en faire un sujet politique de ces violences gratuites, celles qui ne sont pas liées à un vol, qui font la une du Figaro. On peut en faire un sujet politique ou bien s'interroger sur la nature humaine. 777 agressions gratuites par jour l'an dernier. Cela parle aussi bien dans le Figaro des attaques contre les pompiers, 6 par jour en moyenne, ou de ce qui est arrivé à un homme à Nîmes, il s'appelle Ludovic. C'est un rescapé aux doigts brisés, comme si ses mains étaient passées dans une machine agricole, on dit les médecins, roué de coups par 2 hommes, l'un d'eux surveillant dans un collège. Il avait simplement klaxonné une voiture. À la une de Midi Libre, dans l'édition de Montpellier, on raconte l'émeute qui a ravagé une partie du centre-ville hier soir, autour du carnaval des gueux avec un cas. C'est un défilé festif et engagé, mais que les autorités avaient interdit. Eh bien, les fêtards ont défié la police. Et vous lirez dans Midi Libre la litanie des destructions, des lacrymogènes, des lances à eau, des poubelles incendiées, du mobilier urbain dévasté. La fête à la une du Courrier Picard. On évoque le sort d'un fermier qui a été tué chez lui à coups de marteau. La violence quotidienne, Nicolas.
Une guerre à la tête d'Engie.
Le géant français de l'énergie. Et là, nous sommes dans une violence feutrée tout en haut de la pyramide sociale. C'est Le Monde qui raconte la haine qui accompagne Isabelle Cochère, directrice générale de Engie. Elle voulait en être aussi la présidente et ne le sera pas. L'article s'appelle « Coup bas, sexisme et boule puante ». Et cela parle ou bien d'une dirigeante trop autoritaire qui a été lâchée par l'État actionnaire, ou bien cela parle d'une femme salie dans un monde d'hommes parce que, je cite Le Monde, les barbons de l'establishment supputaient aussi les coucheries de la patronne. Tiens, rappelle Le Monde, jamais, jamais aucune femme n'a été PDG d'une entreprise du CAC 40. Dans le 1, on parle, c'est le même sujet, des inégalités salariales. Et l'écrivaine Lola Lafon nous raconte une vieille histoire qui date du printemps 2000, quand elle était jeune journaliste, venue dans un canard branché se faire payer un article. Elle se fit alors inviter au café par le jeune rédacteur en chef qui regardait son ventre dénudé que laissait voir le treillis porté sur ses hanches. L'histoire, c'est réjouissant, se termine dans la rue par un homme qu'une fille pousse d'une main vers le distributeur de billets et qui pianote son code furieux sous tes airs de blondinette. C'est quoi ces méthodes de petit gangster? Tu es sacrément vulgaire, lâche-t-il sans quitter des yeux, la peau de mon ventre. Ça soulage les femmes qui n'osent pas toujours. Lola Lafon dans le 1.
Et une légende, pour finir, une légende venue d'Afrique.
Qui tombe bien ce jour de Saint-Valentin, jour sucré, où par exemple, le journal de Saône-et-Loire met à la une un couple d'amoureux. Elle l'a repéré en voyant sa photo dans le journal. Le journal de Saône-et-Loire part aussi, heureusement, d'une start-up érotique qui s'est montée à Autun. Et bien donc, on a dans Slate un conte charnel, africain mais réel. Et ceci, je préviens les parents, ne regarde pas les enfants, éloignez-les du poste. La légende raconte ceci, que le lac Kivu est né de l'éjaculation d'une reine qu'un soldat timide avait caressée de son sexe. Et de cette légende est née une culture du plaisir féminin, on appelle ça le kunyaza, pratique consistant à stimuler le clitoris et les lèvres pour atteindre cet orgasme féminin devenu la revanche des femmes dans un continent par ailleurs ravagé par l'excision. Un documentariste belge a passé 7 années à recueillir des témoignages sur cette pratique qui tombe en désuétude mais qui se maintient parfois par des ruse. On découvre dans Slate le personnage de Vestine Duzabé. Elle parle de sexe sur une radio qui s'appelle Flash FM. Animatrice sexologue, elle anime des ateliers sur le plaisir féminin, mais défend aussi la contraception. Une grande-tante, donc protectrice et dispensatrice de liberté. Quand elle a commencé ses émissions en pleine nuit, les gens mettaient leur réveil pour l'écouter. Ils faisaient l'amour en l'écoutant et le faisaient même en l'appelant. C'était au Rwanda. Nous sommes le 14 février. Vous pouvez ramener les enfants.
Claude Askolovitch, merci pour la revue de presse.